Lyon Demain, médias agitateurs d'idées.
Le télétravail peut-il perdurer au-delà de la crise Covid? Quelles conditions et quels sont les risques? Pour en parler, Gaëlle Bossier reçoit François Cochet, président de la FIRPS, autrement dit la Fédération des intervenants en risques psychosociaux.
Monsieur François Cochet, merci de m'accorder un petit peu de temps en marge du congrès sur le télétravail. Vous êtes président de la FIRPS, Fédération des intervenants en risques psychosociaux. J'aimerais d'abord comprendre et savoir ce qu'est la FIRPS.
Alors la question des risques psychosociaux, il y a une dizaine d'années, était un peu au centre des débats, en particulier suite à des affaires très médiatiques, la crise sociale chez France Télécom. Le ministère à l'époque a imposé à toutes les grandes entreprises de faire un diagnostic des risques psychosociaux, mais les mêmes entreprises se disaient à qui doit-on s'adresser. Donc la Direction Générale du Travail avait refusé de créer une sorte de label ou d'agrément à l'époque, alors que certains le demandaient. Et donc un certain nombre de cabinets se sont à ce moment-là réunis pour se dire, il faut quand même que la profession s'organise. Cette profession était un peu immature, il y avait des offres parfois un peu étranges. D'autres cabinets qui avaient déjà une grande expérience et qui avaient des approches sérieuses. Donc cette fédération est née de ces événements il y a une dizaine d'années, où les principaux cabinets qui interviennent en prévention sur les risques psychosociaux ont décidé de travailler ensemble pour mieux organiser la profession et faire reconnaître les meilleures pratiques.
À l'heure du télétravail aujourd'hui, on se pose un certain nombre de questions et notamment il y a un accord qui a été signé et de manière assez rapide finalement pour faire avancer ces questions au sein même de l'entreprise et des organisations. Que pensez-vous justement de ce premier accord, on va dire, qui sert de cadre?
On a assisté à une accélération extraordinaire de la question du télétravail à cause de l'épidémie. Il faut quand même rappeler que certaines entreprises avaient signé leurs premiers accords de télétravail il y a 10 ans et avaient déjà plusieurs fois révisé ces accords au vu de ce qui se passait. C'est une bonne pratique. C'est-à-dire on signe un premier accord, on le fait vivre 2 ou 3 ans, on analyse ce qui marche pas et on renégocie, on fait évoluer l'accord. Donc ça, c'est les entreprises les plus matures qui, évidemment, confrontées la crise sanitaire ont été bien meilleures situations que d'autres. J'ai aussi vu des entreprises qui, en janvier 2020, avaient des patrons qui considéraient que le télétravail était impossible, que dans leur activité ça ne marcherait jamais, qui à la limite acceptaient qu'on fasse une expérimentation avec 4 salariés, bref, qui n'y croyaient pas une minute. Ils ont été assez vite un peu ridicules compte tenu de ce qui s'est passé. Donc ensuite, il y a eu un télétravail massif et obligatoire à cause de la crise sanitaire, improvisé dans des conditions exceptionnelles qu'il ne faut pas du tout confondre avec ce que doit être le télétravail demain. Donc les partenaires sociaux en ont été conscients, ils ont à leur initiative engagé une négociation à l'automne 2020 qui a abouti à un accord national interprofessionnel adopté à une très large unanimité, c'est-à-dire que l'organisation syndicale qui ne l'a pas signé avait participé à la négociation, approuvé la plupart des choses. Il y a des points qui leur paraissaient insuffisants, mais bref, cet accord est une base de travail pour tout le monde. Et aujourd'hui, dans les entreprises qui maintenant négocient les accords internes, beaucoup s'appuient sur cet accord national interprofessionnel qui a fixé des définitions, qui a indiqué les points qu'il fallait contrôler, qui sont, au plan de la méthode, une très bonne base. Ça évite que dans les entreprises, on parte d'une feuille blanche.
Les entreprises de taille moyenne, les PME, les TPE, ont dû s'adapter à cette demande-là, alors que finalement, ils n'étaient pas du tout agiles dans ce domaine. Comment s'adapter justement à ces nouvelles normes, à la fois du côté de l'entreprise et aussi du côté des salariés? Parce que finalement, ça a posé quand même des problèmes, notamment des problèmes même matériels.
Les problèmes que ça pose sont multiples. Le plus compliqué pour l'entreprise, c'est d'admettre que les points de vue des salariés sont différents sur le sujet. Il y a les fans du télétravail, il y a ceux qui détestent ça, et il faut continuer à ce que les uns et les autres arrivent à travailler ensemble. C'est difficile. En plus, ça interroge la question de la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et ça, c'est une réelle difficulté, avec le risque que pour les plus fanatiques du télétravail, il y a des gens qui vont chercher à télétravailler tout le temps, qui vont délocaliser leur domicile pour s'éloigner de l'employeur, par exemple aller vivre dans leur résidence secondaire. Au bout d'un moment, il y a un vrai risque de décrocher de la vie professionnelle. Et pour autant, c'est des aspirations tellement fortes qu'il faut que les entreprises arrivent d'une façon ou d'une autre à y répondre. Sinon, les gens vont aussi changer de boulot. Donc, c'est une question très complexe. Et pour les représentants du personnel, c'est compliqué aussi. Ils sont très attachés à l'égalité. Ils veulent que tout le monde soit traité pareil dans une entreprise. Alors que ça soit équitable, c'est bien, mais ça ne peut plus être identique. Parce que les gens ne veulent plus la même chose. Et ça, pour les représentants du personnel, c'est compliqué à intégrer aussi. Donc le bon accord télétravail, c'est celui qui tient compte des points de vue individuels et collectifs et qui est, je dirais, éclairé et réversible. Pourquoi réversible? Il faut pouvoir reculer parce qu'il y a une tentation de télétravail, puis au bout d'un moment, on peut s'apercevoir que trop, c'est trop, que ça marche pas et il faut pouvoir revenir en arrière. Et il faut aussi que ça soit éclairé parce que sinon, chacun est dans sa bulle et peut ne voir qu'une partie de la réalité. Donc il faut aussi qu'il y ait régulièrement des études, des évaluations qui renvoient à l'entreprise et à chacun où j'en suis par rapport à la question du télétravail. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je dois corriger, sur quoi je dois reculer, peut-être que je peux avancer, aller plus loin dans d'autres domaines. Et ça, il va falloir une très grande vigilance dans les années qui viennent sur cette question.
Tout à l'heure, vous évoquiez un cas dans votre conférence d'une entreprise qui a réduit le nombre de mètres carrés grâce au télétravail finalement. Est-ce que c'est aussi l'avenir, c'est-à-dire de faire des succursales multiples avec d'autres télétravailleurs, etc., et que l'entreprise soit moteur à ce niveau-là?
C'est une façon intelligente de rétablir de l'égalité entre salariés. Parce que par exemple, il y a des salariés, leur domicile leur permet de travailler, d'autres non. Mais si on leur propose un lieu de travail proche de leur domicile, qui réduit la question des transports et qui n'est pas pour autant la maison, l'appartement, ça peut être une formule très appréciée de certains salariés. Ça évite aussi la solitude au quotidien, parce qu'on a quand même, sinon des collègues, parce que c'est des lieux où c'est pas forcément les gens de la même entreprise, on a des voisins de bureau, des gens à côté de qui on est, avec qui on peut déjeuner à midi, et c'est un point, je pense, d'équilibre intéressant.
Il y a d'autres éléments que vous soulignez, notamment le fait de l'adaptabilité des logements, voire même des situations personnelles que l'entreprise souvent ignore du salarié, parce qu'il y avait bien une frontière entre ce que l'employeur est censé connaître du salarié et son réel. Et souvent, c'est un frein à cette mise en place du télétravail.
Alors de ce point de vue-là, il va falloir être extrêmement respectueux des personnes qui diront qu'elles ne veulent pas télétravailler. On n'a pas à leur demander pourquoi. Parce que pendant la crise sanitaire, par exemple, des gens qui étaient immunodéprimés devaient télétravailler à 100%. Et du coup, ils ont été obligés de le dire à leur employeur. Il y a des couples qui ont trouvé leur équilibre à une certaine distance. On sait que si on est à domicile tout le temps, comment je dis à mon employeur, je ne peux pas travailler à domicile parce que sinon je vais divorcer. Ça ne regarde pas l'employeur. Il faut dire, je ne veux pas télétravailler, point. On ne doit pas avoir à se justifier d'un refus de télétravail. Parce que sinon, ben, on va rentrer dans des atteintes aux libertés et à la vie privée qui de toute façon ne sont pas permises par le droit.
On va renvoyer nos auditeurs à votre site internet de la FIRPS où il y a plusieurs dossiers qui sont accessibles. Comment ça se passe?
Les cabinets qui sont membres de FIRPS ont des modes d'exercice extrêmement différents. Certains travaillent à la demande des employeurs, d'autres, c'est le cas de ma structure CECAFI, à la demande autrefois des CHSCT ou des comités d'entreprise, aujourd'hui des CSE, donc en gros à la demande des syndicats pour simplifier. Et bien malgré ces différences de positionnement, on a eu des travaux de fond extrêmement intéressants sur un certain nombre de sujets. On a fait des groupes de travail, on en a fait un sur la prévention du suicide en entreprise, sur la prévention des risques psychosociaux dans les phases de restructuration, sur la prévention du burn-out, sur le bon usage des numéros verts d'assistance psychologique, sur les règles de déontologie, enfin, et chaque fois, ces groupes de travail se sont traduits par un petit livret qui existe sous forme de papier et qui est aussi téléchargeable gratuitement sur notre site. Donc, c'est des repères de méthodes et de bonnes pratiques qui nous paraissent utiles. Et il faut savoir aussi que les cabinets qui adhèrent à la FIRP se sont mis d'accord sur un code de déontologie, des principes d'exercice qui fournissent de ce point de vue-là des garanties à tous ceux qui cherchent des prestataires expérimentés et compétents.
Merci beaucoup François Cochet. Je rappelle que vous êtes président de la FIRPS qui est la Fédération des intervenants en risque psychosociaux. Merci.